Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on va faire connaissance avec un collectif composé d'Elena, de Gabriella, de Giorgio, de Sylvia et de Louisa. Ce collectif italien, vous vous en doutez, a commis en 1972 un extraordinaire petit bouquin qui s'appelle « Être exploité » de ZS. Et voilà de quoi il ressort. Dans un chapitre, ce collectif fait le point sur l'évolution des idées politiques, en particulier sur la place des femmes. Voilà ce que ce collectif a trouvé, a découvert, a compacté en ce qui concerne Proudhon, Fourier, Marx et Engels, bien entendu, et puis Bebel, Auguste Bebel. Et pour finir, Lénine. Alors on va se promener au milieu de ces gens-là, et puis, on sait déjà pas mal de choses. Mais moi, j'ai toujours peur qu'on ne sache pas à quel point Proudhon était un affreux antiféministe, méprisant, macho, c'est pas assez de dire macho. Faut savoir, et vous allez voir ce que c'était que Proudhon. Marx disait que Proudhon avait voulu être une synthèse, mais n'était qu'une erreur composée. Qu'il mettait la science au-dessus des bourgeois et des prolétaires, en étant lui-même qu'un petit bourgeois, ballotté entre capital et travail, entre économie politique et communisme. Son idée de la femme frise le délire. Être physiquement inférieur, disait-il, c'est un problème sans solution. La femme vaudrait, selon Proudhon, les 8/27e d'un homme, c'est-à-dire moins d'un tiers de bonhomme. Et son destin ne peut être que d'être au service du mari, d'assumer les tâches ménagères et la reproduction. Et même, Proudhon souhaite une solution génétique pour éliminer les mauvaises épouses et fabriquer une race d'épouses bonnes et disciplinées. Proudhon aspire à une loi donnant droit de vie et de mort au mari sur la femme en cas de désobéissance ou de mauvais caractère. Proudhon renforce donc le préjugé qui justifie l'écart des salaires entre hommes et femmes. Il considère la femme comme une voleuse du travail de l'homme. Bon, ça suffit peut-être, j'en rajoute pas. Heureusement, après Proudhon, on va parler de Fourier. Et ça, c'est quand même nettement plus sympa. Fourier fut le premier socialiste à parler d'émancipation féminine. À travers sa critique incisive du capitalisme et des désordres afférents, il dévoile la misère matérielle et morale du monde bourgeois et met en évidence la manière dont les femmes sont victimes de cet état de choses. Cette critique de la forme bourgeoise des rapports des sexes et du statut de la femme dans la société bourgeoise fut radicale et mena Fourier à prévoir une société dans laquelle régnerait une parité absolue entre l'homme et la femme. Ça signifiait reconnaître que l'oppression de la femme est socialement préparée, organisée, déterminée. Et donc, ça affirme sa non-infériorité. Il fut même le premier à déclarer que dans une société donnée, le degré d'émancipation de la femme est la mesure de l'émancipation générale. On répète, le degré d'émancipation de la femme est la mesure de l'émancipation générale. Chez Fourier, la femme était réintégrée dans ses droits. Ce n'était pas autre chose que le libre développement de son être, pour elle comme pour l'homme. Cette parité souhaitée et nécessaire entre l'homme et la femme ne devait pas être seulement juridique, mais devait se réaliser aussi dans les mœurs. Le système d'éducation devait être le même pour les garçons et pour les filles, puisque la séparation des deux sexes dès les premières années de la vie est le facteur déterminant du malaise social d'alors et qui perdure, on peut dire. En effet, l'affirmation que la femme n'est pas différente mais égale de l'homme est dans la bouche de tous maintenant. Et c'est grâce à elle que l'on voudrait masquer la condition d'infériorité effective des femmes et étouffer ainsi toute prise de conscience en vue de leur libération. L'égalité est en effet ce que l'on offre aux colonisés au niveau des droits et des lois et ce qu'on leur impose au niveau de la culture. C'est le principe sur la base duquel celui qui domine continue à conditionner celui qui est dominé, voire France-Afrique. Lorsque Fourier affirmait l'égalité de l'homme et de la femme, la situation était bien différente de celle d'aujourd'hui, car cette égalité n'était pas seulement refusée aux femmes à ce moment-là, elle n'était même pas évoquée, même pas énoncée. Toute l'importance des déclarations de Fourier provient de là. Leur validité a d'ailleurs été démontrée par la pratique, car certaines femmes en France ont eu sur cette base un rôle très important dans les luttes ouvrières en suivant ces préceptes, en particulier le fait que la femme devait être libre de choisir sa profession et qu'à travail égal, elle devait recevoir un salaire équivalent à celui de l'homme.
La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père, la misère, c'est la flamme qui mène le peuple à la victoire. Je connais des catégories de gens qui luttent pour que la vie cesse pour le peuple d'être un tourment en 81, année noire où le gaz, le sel se font rare. Discutons d'idéologie, évitons les acrobaties. Les questions de changement d'Haïti devraient se faire au prix du sang, au prix d'une bonne révolution. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père, la misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire. Je sais que j'aurai des comptes à rendre dans ce tribunal qu'est la vie. Quand je disais ce que je voulais, s'agissait-il de positions que je prenais pour mon plaisir? Faut croire que j'idéologise, pour le peuple ça ne veut rien dire. Faudrait pas trop que je m'abuse en me faisant juge des moins manants. Faudrait maintenant que je sois conscient. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la science, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père, la misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire. Pour connaître le paysan, on devrait prendre le chemin avec lui au lever du jour, revenir la nuit fatigué en fredonnant ses beaux refrains. Mais c'est le contraire qui se produit. On parle pour lui, on l'expertise. On se porte garant de tous ses mots sans avoir jamais fait le tour de ses problèmes de tous les jours. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la sueur, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire. La force paysanne, c'est la terre, la faucille et la sueur, ça n'a rien à voir dans la prière. Voulez-vous qu'elle invoque Dieu le Père? La misère, c'est la flamme qui mène un peuple à la victoire.
Et puis on arrive au point de vue de Marx et d'Engels. Pour Fourier, la suppression de la discrimination économique devait amener n'importe quel homme à pouvoir disposer de toutes les femmes et n'importe quelle femme de tous les hommes. Oui, l'expression « disposer » me chiffonne un peu, mais enfin, dans la mesure où n'importe quelle femme peut disposer de tous les hommes, ça me rassure fortement. Et Marx écrit: pour le bourgeois, sa femme n'est autre chose qu'un instrument de production. Il entend dire que les instruments de production doivent être exploités en commun, et il conclut naturellement que les femmes elles-mêmes partageront le sort commun de la socialisation. Il ne soupçonne pas qu'il s'agisse précisément d'arracher la femme à son rôle actuel de simple instrument de production. Rien de plus grotesque d'ailleurs que l'horreur ultramorale qu'inspire à nos bourgeois la prétendue communauté officielle des femmes que professeraient les communistes. Les communistes n'ont pas besoin d'introduire la communauté des femmes, elle a presque toujours existé. Nos bourgeois, non contents d'avoir à leur disposition les femmes et les filles des prolétaires, sans parler de la prostitution officielle, trouvent un singulier plaisir à se cocufier mutuellement. Le mariage bourgeois est en réalité la communauté des femmes mariées. Avec l'abolition du régime de production actuel, disparaîtra la communauté des femmes qui en découle, c'est-à-dire la prostitution officielle et non officielle. Fourier voit dans la coexistence isolée au sein de la famille et dans le mariage permanent, ce qui suffit de renverser pour créer un état de pleine liberté. Marx et Engels, au contraire, voient dans la destruction de la propriété privée des moyens de production la seule chose qui puisse opérer un bouleversement. La famille est alors vue comme l'une des institutions essentielles qui protègent la propriété privée, tandis que les bourgeois lui attribuent pour cette même raison un caractère sacré et immuable. Marx et Engels procèdent en la démystifiant et en faisant, dans le même geste, une analyse de la condition des femmes à l'intérieur de la famille. Ainsi, extrait du manifeste du Parti communiste et de l'idéologie allemande: on ne peut pas parler de la famille comme un tout. C'est la bourgeoisie qui donne historiquement à la famille son caractère de famille bourgeoise, où le lien est fait d'ennui et d'argent. La dissolution bourgeoise de la famille fait aussi partie de ce lien, et malgré cette dissolution, la famille continue toujours à exister. Dans le manifeste, on trouve: sur quelle base repose la famille bourgeoise d'à présent? Sur le capital, le profit industriel. La famille, dans sa plénitude, n'existe que pour la bourgeoisie. Mais elle a pour corollaire la suppression forcée de toute famille pour le prolétaire et la prostitution publique. La femme du bourgeois est la femme qui ne travaille pas. La femme belle, la femme dotée d'instinct maternel. Tout ça aux dépens de la grande majorité des femmes qui, entrée en masse à ce moment précis dans le procès de production, travaillent 18 heures par jour, sont physiquement épuisées et sont rendues étrangères à leurs propres enfants de la manière la plus antinaturelle. Enfants auxquels elles donnaient même de l'opium, car ils n'étaient rien d'autre que des obstacles. Les valeurs idéologiques et culturelles de la famille bourgeoise, fidélité, monogamie obligée, éducation des enfants, rapport affectif entre parents et enfants, etc., ces valeurs perdent toute réalité et toute signification pour le prolétariat, qui n'a aucune propriété à transmettre. Conservation et transmission héréditaire pour lesquelles furent créées la monogamie et la domination de l'homme. Et pour qui les liens de la famille sont rompus, de fait, par les conditions de vie et de travail auxquelles il est contraint. Et dans cette dissolution de la famille, Marx et Engels voient la possibilité de dépasser les rapports familiaux bourgeois et de créer de nouveaux rapports entre les sexes authentiques et exprimant une liberté réciproque. Ainsi, depuis que la grande industrie, arrachant la femme à la maison, l'a envoyée sur le marché du travail et dans la fabrique, et qu'elle est en fait assez souvent le soutien de la famille, toute base a été enlevée dans la maison du prolétaire à l'ultime vestige de la suprématie masculine, sauf peut-être encore un reste de brutalité envers les femmes qui est entré dans les mœurs avec l'introduction de la monogamie. Et ça, c'est extrait de Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État.
Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
Et Engels découvrent également que les femmes, comme les rapports entre les sexes, ne sont pas encore libres. Dans leur description de la crise de la famille, de nombreuses observations témoignent d'une attention très sensible de leur part sur ce sujet. Ils en repèrent aussi certaines causes matérielles, même si leur analyse ne va pas jusqu'aux conséquences ultimes. Ils remarquent en effet que les femmes et les rapports entre les sexes ne sont pas encore libres, car les femmes entrent en usine, et ce qui est pour eux déterminant, c'est la manière dont les femmes entrent en usine. Jadis, l'ouvrier vendait sa propre force de travail dont il pouvait librement disposer. Maintenant, il vend femmes et enfants, il devient marchand d'esclaves, dit Karl Marx dans Le Capital. Parce que le salaire de la femme entre dans le foyer où domine et où dirige l'homme. Effectivement. La femme, si elle remplit ses devoirs au service privé de la famille, reste exclue de la production sociale et ne peut rien gagner. Et que par ailleurs, si elle veut participer à l'industrie publique et gagner pour son propre compte, elle est hors d'état d'accomplir ses devoirs familiaux. Ainsi, Marx et Engels atteignent le véritable fond du problème, car la spécificité de la contradiction homme-femme, déjà mise en évidence ailleurs, devient claire. La première opposition de classe qui se manifeste dans l'histoire coïncide avec le développement de l'antagonisme entre l'homme et la femme dans le mariage conjugal, et la première oppression de classe avec l'oppression du sexe féminin par le sexe masculin. Disait Engels dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Dans la famille, l'homme est le bourgeois et la femme joue le rôle du prolétaire. Absolument, c'est l'homme qui donne les ordres. Alors effectivement, le bourgeois cadre, etc., ordonne et le prolétaire obéit. Eh bien, c'est la même chose dans la famille. Enfin, c'était. Quelle solution est envisagée? De l'analyse de Marx et Engels, on déduit que la solution du problème des femmes coïncide avec la solution de la contradiction historique fondamentale entre le capital et le travail, entre la bourgeoisie et le prolétariat. Marx et Engels posent une identité entre le socialisme et la libération des femmes et des rapports entre les sexes. Mais cette identité, si elle est pertinente, doit être envisagée dialectiquement et non de manière mécaniste, car si la libération des femmes ne peut vraiment provenir que de la solution de la contradiction entre capital et travail, il est tout aussi évident que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que cette solution ne peut pas être réalisée avant que ne soit réduite la première oppression de classe, celle du sexe féminin par le sexe masculin. L'esclavage des femmes n'est pas seulement, en somme, le produit de la contradiction entre le capital et le travail. Il en est la base. L'appropriation de la force de travail des femmes est la base de toute autre appropriation de la force de travail d'autrui.
Pour affaire de mœurs, je suis entré au CIA, c'est un dur labeur. Je peux pas vous dire ce que je fais, c'est confidentiel. Mais je peux vous dire que les effets sont providentiels. L'indispensable complément d'Henri Kissinger. Quand je trouve pas le renseignement, je le fabrique sur l'heure. Mon nom ne vous dirait rien du tout, je suis anonyme, mais je navigue dans tous les coups où il y a des victimes. Je travaille dans l'or noir là-bas depuis quelques mois. La remontée de notre dollar, je vous jure que c'est moi. Je suis un drôle de citoyen, je suis éphémère. Je change de nom de continent, j'ai du savoir-faire. Le mauvais citoyen dans le monde entier, tout ça par amour du prochain et de la liberté. Si je vous surveille discrètement, sécurité, je suis pas bavard. Je suis le défenseur US de la démocratie. Si je n'étais pas là vraiment, ce serait l'anarchie. Quand le pétrole se sera fini, j'irai au Japon pour activer les extrémistes, la révolution. Pétrole coulant, l'économie du Japon fleurit. Un changement de gouvernement qui coule, my baby. Un gros marché avec la Chine, made in CIA. Pour le Chili, je ne sais rien, je suis désolé.
Et maintenant, pour se consoler, on va avoir le point de vue d'Auguste Bebel. Le philosophe allemand Auguste Bebel, dans son ouvrage de 1889, « La femme et le socialisme », réussit à définir de manière précise la condition de la femme en tant que telle. La femme souffre en tant qu'entité sociale et en tant que femme. Et il est difficile de dire laquelle de ces deux conditions la fait souffrir le plus. Sans considérer si la femme est opprimée en tant que prolétaire, nous disons qu'elle est presque généralement opprimée en tant que femme dans le monde moderne de la propriété privée. Pour elle, il y a une infinité de liens et de contraintes que l'homme ne connaît pas, qui lui font toujours obstacle à elle. De nombreuses choses permises à l'homme lui sont interdites, de nombreux droits sociaux, de nombreuses libertés dont l'homme jouit sont considérées comme des fautes si c'est elle qui les exerce. Bebel spécifie très clairement sa pensée dans les premières pages de son livre lorsqu'il écrit que la femme est dans une position encore plus inférieure que celle de l'ouvrier, qu'elle est considérée par lui comme un être subalterne et qu'elle l'a toujours été ainsi. Il explique aussi la signification de l'asservissement culturel de la femme. La femme est telle que ses maîtres, les hommes, l'ont faite. Son éducation a été généralement délaissée, plus encore que celle des prolétaires. La situation des femmes est le produit d'un esclavage social qui se perpétue tout au long d'une série de générations et qui finit par devenir une habitude. Pour cette raison, l'hérédité et l'éducation font que l'homme, autant que la femme, voit cette réalité comme une chose naturelle et donc comme une donnée immuable. « Ça a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi, » dit-on. Mais Bebel répond que la question des femmes est intimement liée à celle de la forme et de l'organisation que doit promouvoir la société humaine pour remplacer l'oppression, le dépouillement, le besoin et la misère sous tous leurs aspects par une humanité libre. La tendance à protéger des intérêts réels ou supposés qui sont de toute manière impalpables, rend les hommes aveugles. La classe supérieure du monde masculin pense et juge ainsi la classe inférieure du même monde, et presque tout le monde masculin pense et juge ainsi les femmes, dit Bebel dans « La femme et le socialisme ». Et il complète son analyse par une description très passionnée des conditions terribles auxquelles sont soumises les femmes qui travaillent. Et il met l'accent sur le fait que les salaires les plus bas leur sont attribués, sur l'embauche toujours plus importante des femmes, car les capitalistes apprécient beaucoup ces prétendues qualités et vertus féminines que sont l'aptitude à la patience, à l'agilité des doigts, sur la vice sans fin de l'abaissement des salaires provoquée par la concurrence entre l'offre d'emploi masculine et féminine, et sur l'impossibilité qui en résulte d'une union entre les ouvriers masculins et féminins contre les patrons, qui exploitent par ailleurs la résistance moindre qu'opposent les ouvrières. Les femmes ont vraiment intérêt à se rebeller pour conquérir un statut qui les libère de cet avilissement et de cette dégradation. Elles ne peuvent avoir l'illusion que l'homme les aidera à sortir de leurs conditions, de même que les ouvriers ont peu à espérer de la bourgeoisie. C'est le même rapport. Bebel a ainsi défini le point nodal d'un problème dont la solution dépend de la prise de conscience des femmes. Il est donc l'un des rares socialistes qui a écrit explicitement sur les femmes en devinant le lien nécessaire entre le socialisme et leur libération. Dans la société dont rêve Bebel, la femme est socialement autant qu'économiquement totalement indépendante. Elle n'est plus assujettie à la moindre tyrannie, à la moindre exploitation, puisqu'elle se retrouve désormais en face de l'homme, libre et égale, maîtresse d'elle-même et de son destin. Bebel passe d'une analyse lucide de l'oppression des femmes qu'il a sous les yeux à la libération, déjà réalisée dans une société nouvelle, en passant par la description simple de cette société où seront mis en acte les principes à chacun selon ses propres capacités et à chacun selon ses propres besoins. Il en résulte un décalage évident entre l'oppression et une libération qui semble être le produit mécanique d'une société socialiste déjà réalisée. Car la question politique essentielle du rapport entre le prolétariat et les femmes n'est pas abordée. Elle aurait permis de comprendre comment le prolétariat et ses organisations seront profondément et nécessairement modifiés par l'organisation autonome des femmes que lui-même Bebel souhaitait.
No, I don't wanna love you. Cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure, you say you're right on and you're righteous. But with me, I know you'd be right off. Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. You do to my heart, you'd scorch it just like a hot iron. Leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Cause I know you like to be in charge. And with me, well, you know you couldn't control it, don't you? Cause you know I'd make you drop your guard. Just as hard as I'd be loving you, boy. Well, you know you
Et on en arrive au point de vue de Lénine sur la question. Et c'est pas triste. Les idées de Lénine sur la question des femmes, il faut les étudier parce qu'elles sont l'expression directe d'une vision du monde que nous qualifierions aujourd'hui de patriarcale. Et voilà l'idée de Lénine sur l'émancipation de la femme. Nous qui poursuivons un idéal socialiste, nous voulons lutter pour la réalisation totale du socialisme. Ici, un vaste champ d'action s'offre aux femmes. Nous nous préparons sérieusement à l'heure actuelle à déblayer le terrain pour l'édification socialiste. Or, l'édification elle-même de la société socialiste ne commencera qu'au moment où nous aurons obtenu l'égalité totale de la femme. Alors nous nous attaquerons à ce nouveau travail en commun avec la femme, affranchie de ses besognes mesquines, abrutissantes, improductives. Ce travail nous suffira pour de longues, longues années. Il ne peut donner de résultats rapides et ne produira pas un effet fulgurant. Ah ben oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis plus loin, il ne peut y avoir, il n'y a, il n'y aura pas de véritable liberté tant que la femme ne sera pas libérée des privilèges que la loi accorde à l'homme. Abat ce mensonge, abat les menteurs qui parlent de liberté et d'égalité pour tous alors qu'il y a encore un sexe opprimé. Selon Lénine, n'importe quel État ouvrier qui passe au socialisme devra accomplir un double devoir en ce qui concerne la condition des femmes. Il consiste d'abord en l'abolition des vieilles lois qui ont mis les femmes en état d'infériorité par rapport aux hommes. Mais ce n'est pourtant qu'un début, car la situation de la femme en ce qui concerne les travaux domestiques reste encore maintenant pénible. En effet, écrit-il, la femme demeure l'esclave domestique en dépit de toutes les lois émancipatrices, puisque les petites besognes domestiques l'accablent, l'étouffent, l'abrutissent, l'humilient, l'enchaînent à la cuisine et à la chambre d'enfant, en gaspillant ses efforts dans un labeur absurdement improductif, mesquin, énervant, abrutissant et écrasant. C'est sorti de sur l'émancipation de la femme. Il est clair que Lénine avait conscience de l'oppression, de la condition d'infériorité des femmes et de la nécessité inexorable de leur libération. On peut cependant attirer un instant l'attention sur les solutions qu'il envisage à ce sujet. Soit l'abolition des lois qui sanctionnent l'inégalité de la femme, soit les moyens proposés comme nécessaires pour supprimer les travaux domestiques abrutissants. Sur ce point, le rôle et l'incidence des femmes dans ce changement ne sont pourtant pas clairs. Ils semblent être le produit de décisions politiques générales dans le cadre du processus politique qui suit la Révolution. Certains moyens de libération sont considérés par Lénine comme valables, mais cela n'est pas fait sur la base des exigences concrètes des femmes en leur nom personnel. On veut toujours faire le bonheur des gens à leur place. Par exemple, extrait toujours de « Sur l'émancipation de la femme », « La véritable émancipation de la femme, le véritable communisme ne commence que là et au moment où s'engage la lutte de masse dirigée par le prolétariat maître du pouvoir, contre cette petite économie domestique, ou plutôt sa refonte massive, en une grande économie socialiste. Les réfectoires publics, les crèches, les jardins d'enfants, sont des moyens simples, ordinaires, qui en fait sont susceptibles d'émanciper la femme, de diminuer et de supprimer en fait son inégalité par rapport à l'homme quant à son rôle dans la production sociale et la vie publique.
No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know.
know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure, you say you're right on and you're righteous. But with me, I know you'd be right off. Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Oh, leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. When it got real, I knew you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Cause I know you like to be in charge.
Ce sont certes des étapes et des conditions nécessaires à la libération, mais les limites de telles affirmations sont tout aussi évidentes. La libération des femmes dépend en réalité pour Lénine des décisions que d'autres prennent pour elles. C'est d'émancipation au sens strict qu'il s'agit. De toute manière, cette vision de la condition des femmes reste partielle, car en dernière analyse, leur oppression est considérée comme si elle ne dépendait que de lois injustes et de leur réclusion dans les murs domestiques. L'origine de ces faits réside globalement dans le capitalisme, qu'un pays socialiste élimine donc ou se propose d'éliminer. Capitalisme essentiellement saisi sous l'angle des rapports de production qui le fondent, ce qui laisse de côté la spécificité de la situation des femmes dans ces rapports, c'est-à-dire en quoi il est un système capitaliste, mais aussi masculin et patriarcal. Cet aspect du problème est absent de la pensée de Lénine. Il semble que ce qui a été dit provient de son attitude très critique à l'endroit de la revendication féminine de la liberté de l'amour. Ah ben oui. Dans sa réponse sur la question féminine proposée par Inessa Armand, il observe: je trouvais que la revendication de l'amour libre était imprécise et, indépendamment de votre volonté et de votre désir, je le soulignais en disant « il s'agit de rapports objectifs, de classe, et non pas de vos désirs subjectifs ». Cette revendication se manifestera dans le climat social actuel comme une revendication bourgeoise et non prolétarienne. Pour Lénine, l'interprétation de cette revendication est différente selon qu'elle est faite par des femmes bourgeoises ou des femmes prolétaires. Pour les premières, ce serait typiquement mettre en équation la liberté de l'amour et la liberté des mœurs en amour. Et pour les secondes, ça signifierait la libération des calculs matériels, financiers, dans le domaine de l'amour. Cette séparation rigide entre les femmes bourgeoises et prolétaires met en évidence une certaine limite de la pensée de Lénine. Il ne voit pas complètement la spécificité de la condition des femmes. Il ne comprend pas que le fait d'être femme met en commun les femmes bourgeoises et les femmes prolétaires. Et même s'il est vrai que les exigences et les contradictions des premières restent stériles et ne peuvent pas constituer le point de force d'un bouleversement historique, tant qu'elles ne sont pas ancrées dans celles des femmes prolétaires qui subissent les contradictions les plus fortes, les revendications féministes des femmes bourgeoises n'en sont pas moins présentes et réelles. L'association des femmes à la classe bourgeoise n'élimine pas leur condition première et fondamentale de femme, qui est la base matérielle sur laquelle même les femmes bourgeoises peuvent sentir la nécessité de se révolter au-delà des privilèges dont elles jouissent.
Cent mille morts dans le Sahel africain, 200 000 morts en Éthiopie. Au XXe siècle, on crève de faim où on massacre au Chili. La machine infernale nommée progrès ne s'embarrasse pas des déchets. Les grosses mouches bleues se posent sur les corps. La peau est terreuse et craque comme parchemin. Les eaux cassent d'un seul coup, ils n'iront pas plus loin. La faim les terrasse, ils sont 300 000 morts. À travers la brousse des jours tu as marché, vers le salut, vers le camion de blé, qui t'aura fait durer juste une demi-journée. Où chaque instant l'enfant, au ventre trop gonflé, hurle sa mort sur une mamelle vidée, et s'éteint sur sa mère qui ne peut même plus pleurer. ce temps-là. Allons-nous à Berlin? Le téléphone sonne, annonce les cargaisons qui vident cette Afrique aux ressources sans fin. Ouvre les bénéfices, les autres crèvent de faim. Crève noir, crève, l'Afrique doit payer. L'État, les bourgeoisies des pays africains, gestionnaires despotiques des biens à exporter, avec les grandes firmes, marchent main dans la main et soldent des pays pour quelques gros deniers. Crève noir, crève, l'Afrique doit payer. L'énergie, les cultures, les minerais, la main-d'œuvre, rien ne doit échapper au maître du profit. Les multinationales gentiment font leur beurre. Tant pis s'il y a de la casse ou s'il y a du gâchis. On fera quelques quêtes par messieurs les curés pour cacher le scandale et décongestionner le règne du profit. Il sera bien gardé, on aidera le tiers-monde à mieux le faire crever. Et pendant ce temps-là, dans notre bel Occident, on troque de la culture des canons rutilants contre des gisements miniers ou pétroliers. De belles plantations bien rentabilisées. Aux quatre coins du monde, par le feu et le fer, l'injustice est première, mais tout peut se défaire. Car tous ces brûlots que tu as allumés, dans le sang et les cendres, ils seront consumés. Les masses révoltées préféreront bientôt lutter le fusil aux côtés. Aux côtés.
À Clara Zetkin, qui lui faisait remarquer combien les questions sexuelles et matrimoniales suscitaient de multiples problèmes et étaient la cause de contradictions et de souffrances pour les femmes de toutes les classes et de toutes les couches sociales, et qui lui disait que faire une critique de la société bourgeoise signifiait aussi mettre à jour et lutter contre la fausse morale sexuelle, Lénine répondit. Lénine répondit en noyant le poisson. Pouvez-vous me garantir sérieusement qu'au cours des lectures et des discussions, les problèmes des sexes et du mariage sont examinés du point de vue d'un matérialisme historique conséquent, rattaché à la réalité? C'est que cela suppose des connaissances multiples et profondes, une assimilation très complète, marxiste, de matériaux extrêmement abondants. Disposez-vous actuellement de forces pareilles? Si vous les aviez, une brochure comme celle dont nous avons parlé n'aurait pas servi de manuel aux soirées de lecture ou de discussion. C'est l'allusion à une brochure d'une communiste viennoise sur la sexualité. Et il complète. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il est temps que les ouvrières s'occupent, durant des mois entiers, de la façon d'aimer. À l'heure actuelle, toutes les pensées des ouvrières doivent être orientées vers la révolution prolétarienne. C'est elle qui donnera la base de la rénovation effective des conditions du mariage et des rapports entre les sexes. Tandis que maintenant, ma parole, les problèmes qui se posent sont autres. Le fait que les femmes parlent de problèmes sexuels est considéré par Lénine comme un danger, parce qu'il les considère uniquement par rapport à ce qu'ils signifient dans l'idéologie bourgeoise. Et cette attitude a pour conséquence d'empêcher totalement que les femmes affrontent leurs contradictions et parviennent à redéfinir leurs rapports à partir de leurs conditions. Dans la diffusion importante de l'obuscule qu'avait présenté la communiste viennoise et dans l'intérêt qu'il a suscité, Lénine ne voit que le besoin de justifier aux yeux de la morale bourgeoise une vie anormale ou des instincts sexuels excessifs et de les faire tolérer. Où va-t-on ? Cette passion pour les questions sexuelles, comme il disait, si frondeur et révolutionnaire que soit l'aspect sous lequel cette activité cherche à se manifester, elle n'en reste pas moins tout à fait bourgeoise. C'est une occupation affectionnée des intellectuels et des milieux qui leur sont proches. Il n'y a pas de place pour elle au parti parmi le prolétariat qui a la conscience de classe et qui lutte. Ainsi, alors que les femmes commençaient à affronter leurs propres conditions, on ne voyait pas l'importance de ce fait au moment précis de la lutte sous la dictature du prolétariat. Et même, cette lutte était proclamée comme la seule vraie, comme le problème central pour lequel devaient être dépensées toutes les forces disponibles, sans comprendre l'importance de la manière dont ces forces entraient dans la lutte, sans comprendre que la conscience et la lutte des femmes, à partir de leurs conditions, est la base indispensable de la libération de tout le prolétariat. Il n'y a pas de libération de la femme sans la révolution, mais il n'y a pas non plus de révolution sans libération des femmes. La question des femmes est inscrite à l'intérieur des limites du parti, de sa nature, de ses fonctions et de sa réalité en tant qu'organisation politique intermédiaire, créée comme un instrument de destruction de la domination bourgeoise. Il faut faire participer des millions de femmes laborieuses de la ville et de la campagne à notre lutte et surtout à la réédification communiste de la société. Sans les femmes, il ne peut y avoir de véritable mouvement de masse. Pas d'organisation séparée des femmes communistes. Une communiste est membre du parti avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que ses camarades de sexe masculin. Nous ne devons cependant pas fermer les yeux sur les faits. Il faudrait au parti des organismes, groupes de travail, commissions, sections. Je ne sais quel autre nom il porterait, dont la tâche spéciale consisterait à réveiller les grandes masses de femmes, à les rattacher au parti, et à les maintenir sous son influence. À nous d'instruire les femmes sorties de leur passivité, de les enrôler et de les préparer à prendre leur part à la lutte des classes sous la direction du Parti communiste. Voilà comment on veut faire le bonheur des femmes sans leur demander leur avis.